FM 93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
Oh! Un verre avec... On va faire du dampou. Numéro 17. C'est notre 17e.
Très bon.
Notre réalisateur Jean les a comptés. Et c'est un spécial parce que c'est un des noms que vous nous avez le plus demandé. Parce que beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens l'aiment pas. Hein? Il est très polarisant. On le surnomme parfois le pape de Radio-Canada. Il est à la tête d'une émission phare en termes d'information, tout ça, qui s'appelle « Tout le monde en parle ». Certains comme moi ont déjà dit qu'il avait le pouvoir et l'influence, j'y donne ça, là, d'influencer les élections. Moi, je pense qu'il y a énormément nuit à Mario Dumont dans une campagne, à un moment donné, quand il a présenté un tableau pour chiffrer ses promesses, puis Mario a gelé pas mal là-dessus, il a mal paru. Jack Layton avait été, à mon avis, une entrevue complaisante qui avait donné naissance à la vague orange. C'est ce que moi, je pense. C'est mes opinions, là. Alors, aucun doute, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a du pouvoir, il est important dans le paysage médiatique québécois. Élisabeth Crête a pris un verre avec Guy Lepage.
Ah oui, puis sure. Je vais te dire, j'étais très surprise qu'ils disent oui, parce que c'est un des noms qu'on s'était dit, ça c'est un long shot, il est très occupé, peut-être qu'il n'aura pas le temps pour ça. Mais je vais te dire, dans la même semaine où il m'a dit oui, il a aussi refusé l'animation d'un gala assez prestigieux au Québec. Mais je me suis dit, mon Dieu, dans la gestion de priorité, on n'est quand même pas pire.
Mais c'est le fun, moi, je trouve c'est vraiment le fun qu'il ait accepté. Et en général, j'ai hâte d'entendre ça, impatient, c'est un bon interviewé, Guy. C'est oui. Lui-même qui m'a déjà dit ça. À un moment donné, puis c'est vrai, en général, il est généreux. Il y a du monde qui se présente ici, des fois, on le voit dans le face, ça ne le tente pas, là. Mais en général, lui, c'est un bon interviewé. J'ai hâte d'entendre ça.
Ben, j'ai eu une heure et demie quand même avec lui, fait que ça a été très agréable. Et juste garder en tête que l'entrevue a été réalisée mardi, le 8 octobre. Alors, les références de temps, des fois, il va parler de l'émission passée, de Tout le monde en parle, ou celle qui s'en vient. Mais garder en tête que ce n'est pas celle qui a été diffusée il y a quelques jours, c'est celle d'avant.
À son resto?
Oui, Bistro à Cœur, à Montréal.
Oui, parce qu'il est propriétaire avec Chantal Fontaine, si je ne m'abuse.
Écoute, faudrait vérifier.
Elle était là-dedans au début,
hein? Ah, oui. Ça se peut très bien, oui. Mais on a été très, très bien reçus, évidemment. Okay. Et la première question, en fait, que je vais vous présenter, c'est on se souvient d'RBO. On se souvient du type d'humour d'RBO. C'est un humour qui était parfois méchant, parfois cinglant. Et on dit souvent qu'aujourd'hui, ce type d'humour-là, avec tout le politically correct qu'on connaît, ben, ça passerait peut-être un petit peu moins. Alors, je lui ai demandé son opinion, en fait, avec les yeux d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le type d'humour que vous faisiez à l'époque pourrait passer aujourd'hui?
Moi, je pense que l'humour, là, c'est du consentement mutuel. C'est quasiment comme une relation intime. Tu acceptes de moi ou j'accepte de toi des choses que tu n'accepterais pas d'un tiers. Alors, tu vas décider que tel humoriste ou tel chum, mettons, toi, t'es une fille, a le droit de dire, de faire et même de te faire des affaires que tu tolérerais pas de quelqu'un. C'est du consentement mutuel. RBO, on avait le consentement mutuel de notre public, en tout cas, puis notre public était assez grand. Alors, on pouvait le faire. Il y a des humoristes qui feraient des jokes d'RBO aujourd'hui ou à l'époque. Les gens ont dit, va donc chier, toi, qui tu prends? Parce que t'as pas le consentement mutuel. Tu ne reconnais pas à cette personne-là le droit, le privilège, ou je dirais l'ironie ou le deuxième niveau de rire de toi. Ou de rire de quelque chose que toi t'aimes. Je vais donner un exemple qui est pas du tout dans le trash. Il y a une couple d'années, j'ai animé le 375e anniversaire de Montréal au Centre Bell. On demande à des humoristes de jouer, puis on leur demande, envoyez-nous vos textes. Je reçois le texte de Laurent Paquin. Tu sais, tu le lis, puis tu vois tout de suite où sont les gars. Et que je reçois Louis-José Hull. Je commence à lire, et là, j'ai dit, ah oui, Louis-José Hull, lui, est comme Yvon Deschamps. Faut que je le lise à voix haute, en essayant de l'imiter, pour comprendre c'est quoi le rythme. Parce que Louis-José a un vocabulaire, a un discours en humour qui lui appartient. Il pourrait prendre le meilleur numéro de Louis-José Hull, puis moi, j'irais le faire au bordel. Puis ça serait un résultat bien ordinaire. Puis c'est juste parce que j'étais dans RBO puis que j'étais habitué d'imiter du monde que j'ai dit, oh, je vais me lire à voix haute comme c'était Louis-José. Puis je riais en le lisant. Fait quand un humoriste a son discours puis qu'on accepte puis qu'on aime la façon dont il parle, les sujets dont il traite, on lui pardonne bien des affaires.
Il a raison. Je trouve ça très sensé. Mais c'est quoi le problème aujourd'hui? Tu sais, moi, quand j'étais un fan d'RBO, je pense pas avoir manqué une émission d'RBO. À ce point-là, là, j'ai le DVD dans les coffrets. Gros fan. Et je savais qu'il allait être bitch. Je savais qu'il allait être méchant, mais ça me dérangeait pas. Moi, j'acceptais ça. Fait que c'est un peu ça que Guy a dit. Oui. Tu vas voir un show de Mike Ward. Là, si t'as payé un bien pour aller voir Mike Ward, attends-toi à que ça soit différent que Laurent Paquin. Là.
Exact.
Puis t'es là, t'es dans la salle, t'es consentant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens en haut qui se mêlent de ces relations-là. Qui disent, hey, toi, le public de Mike Ward, ou toi, le public de tel humoriste ou tout, là, tu payes, t'aimes ça, mais t'es un pas bon. Et l'humoriste va trop loin. C'est moi qui décide. C'est plus le public ou l'humoriste. Il y a un nouveau joueur, que moi je les appelle la police de la pensée, qui ont apparu dans le portrait. Et je sais pas si aujourd'hui, RBO, même avec un public consentant, pourrait refaire ça. Parce qu'il y a personne qui se mêlait de ça autrefois. « Hey, RBO, que c'est ça, les jokes de bitch? » Puis vous en prenez. Non, non, regarde, on a notre public, puis il y a personne qui se plaint. Là.
Oui, mais McCroy, il vend des tickets pareils. Hein,
fait que, les salles sont pleines.
C'est ça, ils continuent
à faire. Aujourd'hui, il y a du monde qui en haut. Là. C'est un peu ça qui dérange.
On a souvent parlé de la présence de Guy Lepage sur Twitter. Si vous le suivez, vous voyez qu'il ne gêne pas beaucoup pour envoyer promener les gens qui l'insultent. Oui. Alors, il m'a expliqué sa façon de distinguer ce genre de personnes-là des autres avec une analogie électorale, puis c'est très, très sensé. Écoutez ça.
Moi, j'ai un fan base. Mettons que c'est mon électorat. Alors, ceux qui votent pas pour moi, qui m'aiment pas, qui pensent pas comme moi, puis qui sont juste agressifs, ces personnes-là, ils n'existent pas dans mon monde. C'est-à-dire, je les élimine de mon monde. Parce qu'ils m'ont pas élu. Ils me font même pas vivre. Je leur dois rien, ils me doivent rien. Pendant des années, je disais, je m'en calisse. Et récemment, je me suis rendu compte que je m'en calisse, c'est exagéré, parce que je m'en calisse, il y a comme une charge émotive là-dedans, tu sais. M'en calisse. Alors que c'est même pas ça. C'est ça m'indiffère. Mais vraiment, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis quand il y a des épais qui, sur les réseaux sociaux, qui véhiculent des affaires qui n'ont pas d'allure, ou qui m'insultent, ou whatever, je te les revire, là, mais sur un 17. Si tu viens m'insulter sur mon intégrité, puis que tu signes Sakik 69, hey, c'est va chier, calice de loser, là. Tu n'existes pas, t'as même pas le droit de parole, parce que t'as même pas, t'es pas dans un pays totalitaire, là. Ça me surprendrait, à moins que tu sois dans la GRC, dans la Sûreté du Québec, ou que tu sois un juge, ou quelque chose comme ça, que tu fasses un travail tel que t'es obligé de rester dans l'anonymat. Alors, je te crois pas, t'es un esti de pissou, tu n'as pas d'importance, tu changes rien dans ma vie. Ça, pour moi, ça sert à rien.
Il est dur, là, mais moi, je suis d'accord avec lui. Mm-hmm. On devrait même, tout à l'ère des réseaux sociaux où le monde est agressif, haineux, s'envoie promener, commande tout, on devrait avoir cette attitude-là.
Mm-hmm.
Moi, il y a des commentaires qui me font mal, des fois, ça, tu te quittes? De gens que je sais qui m'écoutent depuis 10 ans ou 5 ans. Tu sais, je sais que c'est des auditeurs. Puis là, ils m'écrivent, ils disent « Hey, Butch, tu l'as échappé dans cette entrevue-là. On t'a trouvé ici trop complaisant ou trop agressif ou tout. » Ça, là, des fois, je le prends, là, dur. On s'en remet, là. Mais il y a raison, les anonymes, le monde, là, tu sais pas c'est qui, les haineux. Qui...
Ben, c'est ton électorat. Là, si on reprend ton analogie, ceux qui t'écoutent depuis 10 ans, c'est ton électorat.
Oh, ils votent pour moi, là.
Vivre. Fait que c'est sûr que ça fait plus mal qu'un troll par rapport.
Ouais. Hein. Mais Guillaume, il y a une réputation de gotof parce qu'ils envoient chier en l'écoutant.
Mais seulement quand ils sont anonymes. Quand c'est des gens qui ont des noms, en général, ils répondent de façon respectueuse. Mais oui, quand c'est des anonymes, ils traitent de moins que rien. Vraiment.
C'est assez drôle.
Mais on devrait faire ça, je pense.
Je pense que oui.
Allez, on va parler des opinions contraires au Québec. Ouais. Parce qu'une chose qu'on reproche à tout le monde en parle un petit peu, c'est qu'on a l'impression que c'est à sens unique.
Oui,
émission,
je
là.
L'ai déjà dit.
Oui. Puis on dit souvent qu'au Québec, la gauche n'aime pas parler avec la droite n'aime pas parler avec la gauche. Moi, je pense à l'exemple d'Éric Duhaime. Quand on a annoncé à Urbania la collaboration avec Éric Duhaime, ça a été très, très mal reçu par rapport à l'autre soir. Puis je pense à d'autres exemples où ça a été l'inverse aussi. Alors, j'ai demandé à Guillaume, est-ce que tu as l'impression des fois que la discussion est difficile avec ceux qui pensent pas comme nous?
T'es obligé d'affronter, de connaître, de réfléchir sur les arguments de tes adversaires idéologiques intelligents. Sans ça, tu tournes en rond, tu tournes à vide. Moi, j'aime bien mieux discuter avec un fédéraliste articulé qu'un indépendantiste cave. Quand j'en rencontre, je me dis, asti, je peux pas croire que cet asti de cave-là, il vote comme moi. Parce que lui, il peut rien m'apprendre. Puis lui fait que je me retrouve associé à quelqu'un qui a pas réfléchi. Alors moi, ce que j'aime, c'est des gens qui réfléchissent. Puis qui vont, que je sois d'accord ou non, m'amener à une réflexion supérieure à laquelle j'adhérais. Moi, ça m'arrive pas souvent que quelqu'un me fait changer d'idée, mais ça arrive souvent que l'argumentaire de quelqu'un me fait le comprendre mieux. J'aime les gens intelligents.
Là-dessus, 100% d'accord, mais un tout petit commentaire, je trouve qu'il le fait passer. Ce qu'il vient de dire là, c'est parfait. Effectivement, jaser avec des gens qui pensent pas comme toi, mais qui débattent de façon intelligente, c'est mieux qu'un niaiseux qui pense comme toi. Oui, 100% d'accord. Mais je trouve que quand tout le monde en parle, ça manque. Ça manque un peu de confrontation et de discussion, selon moi.
Mais parlons que tout le monde en parle, justement.
Oui, oui,
un commentaire que tu as dû entendre souvent, c'est « Tout le monde en parle, c'est payé par nos taxes. Le salaire de Guy Lepage, c'est payé par nos taxes. Le cachet qu'on donne aux invités, c'est payé par nos taxes.
On veut savoir combien
son salaire. » Mais qu'est-ce qu'il dit à ce genre de commentaire-là?
on nous dit ça va finir, puis vous êtes pas bon, on paye ça avec nos taxes. Bien, toutes les affaires que t'entends. L'émission, ça fait 16 ans qu'elle existe. Cette émission-là s'essouffle pas. Cette émission-là a encore de la portée, a encore un public qui s'est probablement diversifié. Aussi, quand les gens disent on paye ça avec nos taxes, ou bien là, premièrement, tout le monde en parle, c'est une émission, c'est une machine à imprimer du fric. Là. Juste expliquer aux gens que le décor est payé depuis la troisième émission de la première année, puis qu'on a toujours le même, et que ça coûte le même prix à chaque semaine, les invités qui sont tous payés le même prix, sans aucun passe-droit. Mais à chaque fois que quelqu'un dit « Ah oui, ils ont dû y donner 10 000 piastres », tout le monde est payé le même prix. Et les plus grandes vedettes, là, quand Kiss vient, quand Taylor Swift vient, c'est zéro scène. Eux autres, aux États-Unis, ils font tout ça gratis. Ils veulent même pas signer cette affaire-là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec 912 piastres ou 1008, je sais pas trop. C'est juste de la paperasse qui va être payée. C'est même pas... Hey, c'est non, c'est beau, regardez-les.
Ouais, on sait toujours pas son salaire, mais ça... Je le blâme pas. Y a personne au Québec qui veut le faire. C'est-à-dire que je ne le blâme pas, lui, individuellement, personnellement. C'est le même partout. Moi, je pense qu'il devrait y avoir plus de transparence sur les salaires dans le monde public, mais il n'est pas tout seul. Mais son argument sur se payer par nos taxes, c'est pas mauvais. Ouais, d'après moi, Radio-Canada fait du cash avec tout le monde.
D'après moi,
avec ce qu'il a donné, là, il doit m'en faire.
Ouais. Hey, t'as parlé en ouverture que tout le monde en parle avait quand même un pouvoir. Ben, en fait, Guy Lepage avait un pouvoir de soit monter des carrières ou de briser des carrières.
Je pense que oui.
L'exemple de Jack Layton, l'exemple de Mario Dumont, son passage, tout le monde en parle. Alors, j'ai demandé, est-ce que tu es conscient du pouvoir que tu as face à la carrière des invités?
Oui, oui. Mais très souvent, c'est grâce ou à cause de l'invité, pas à cause de nos questions. Quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, Trudeau, il y a eu une free ride de Guillaume, on sait bien, il doit voter libéral. Faut vraiment être cave, je pensais ça premièrement. Là, moi, j'ai répondu poliment cette fois-là. Je dis, ne confonds jamais les questions et les réponses. Tu n'as pas aimé les réponses de Trudeau parce que ça te disconvient. On vient qu'il réponde à ces questions-là de sa façon. Mais c'était 20 questions chiennes. Point. C'était lui qui avait les pires questions. Pourquoi? Parce que il est imputable. Les autres, c'est des gérants d'estrade. Les autres, ils veulent devenir calife à la place du calife. Fait qu'ils disent, oh, moi, si je suis élu, je vais faire ça. Puis ça veut pas dire qu'ils le feront pas, mais c'est des gérants d'estrade. Moi, à la place de Claude Julien, j'aurais mis tel. Tu jases. Il y en a un autre, lui, il est sur la glace. Trudeau, il est sur la glace. Ça fait 4 ans qu'il multiplie parfois des bons coups, mais aussi des erreurs. Fait qu'il peut pas avoir la même entrevue que les autres. Puis en plus, dans le cas des élections fédérales, t'as un calife, t'as celui qui va être calife à la place du calife, Andrew Scheer, et les trois autres, malgré tout le respect que j'ai pour Madame May et François Blanchet et John May, ils ont aucune fucking chance. Zéro. Non, lui, on n'en parle même pas. C'est un clown.
Il va-tu venir?
Bien, on l'a invité. Il était supposé être là dimanche passé. C'était la date qu'on avait fixée. Puis finalement, il y avait un engagement très important. C'est ça, la version officielle.
Alors, le reste, c'est ça que ça dépend beaucoup des points de vue, là. Hein, c'est si la personne... Je sais, moi, je le vis aussi des fois. Si je reçois quelqu'un que les gens aiment pas, ça se peut qu'ils me trouvent complaisant parce qu'ils auraient voulu que je sois plus agressif. Des fois, c'est l'inverse. Je vais recevoir un politicien que les gens aiment. Admettons, ceux qui l'aiment vont me trouver trop dur.
C'est souvent comme ça.
Ça dépend souvent de la personne qui regarde l'entrevue.
C'est sûr que la personne qui est imputable, on va être plus chien avec lui qu'avec les autres. Ouais. Lui, il a un bilan à défendre. Mais là, je sais que vous voulez qu'il se prononce spécifiquement sur le cas de Mario Dumont.
Oui. Alors, moi, je pense que Guy a nuit à la campagne de l'ADQ. À mon avis, il l'a quasiment tué quand il a sorti à Mario Dumont un tableau vert qu'on n'a plus jamais revu. Il parlait de décor, là. C'est le même décor, mais le tableau, il est disparu. Puis il a demandé à Mario de chiffrer ses promesses.
Mais il va expliquer qu'est-ce qui est arrivé.
Ah, intéressant. On l'écoute.
Puis dans le cas de Mario Dumont, qui avait été très, très, très fâché, qui ne parlait pas pendant un an de temps.
Un an?
Oui. Ça lui a fait perdre. Je rappelle la situation. On était à 2 semaines des élections. Tous les autres partis avaient remis leur plateforme, puis leur chef. Pas lui, qui a 2 semaines de voter pour quelqu'un, puis il avait le vent dans les voiles. Là. C'était éducation, santé, transport, tu sais. Mais des chiffres là-dedans. Puis on avait même mis ceux du PQ, ceux des libéraux à côté. Il y avait juste à remplir ces trucs. Moi, si j'avais été lui, même s'il était supposé les annoncer le mardi suivant à Rivière-du-Loup dans un quelconque scrum, je sais pas trop, moi, tu me présentes ça, puis l'animateur vient de me dire, c'est parce que comment on peut voter pour toi si on ne sait pas tes chiffres? Moi, je me serais levé, j'aurais écrit 25, 14, 7, je me serais rassis, j'aurais dit pour les détails, mardi prochain, on va vous l'expliquer. Puis selon moi, il y aurait gagné. Et ce qui l'a tué, c'est Chantal Hébert qui est arrivé dans une autre entrevue après, puis qui a dit « Quelqu'un qui n'est pas capable de répondre à mettre trois chiffres là-dedans est indigne de gouvernement. » Ça, c'est ça qui l'a achevé. C'est ce commentaire-là. Puis là-dessus, il a été maladroit, puis c'est le genre d'affaire que hey, s'il l'avait fait, je pense qu'il serait rentré. Pas de farce.
Bon, c'est intéressant, ça. Fort intéressant. Bon, d'abord, au moins, on s'entend sur une chose. Guillaume reconnaît qu'il a tué la campagne de l'ADQ. C'est pas rien pareil, mm-hmm. là. Ben, lui, puis Chantal Hébert. Ouais. Avec le tableau que Mario a pas rempli, puis Hébert qui a donné la phrase assassine. Ça a vraiment nui à la campagne de Mario. Au moins, il est conscient de son influence et de son pouvoir. Mais je vais y donner de quoi, mais je maintiens que sortir le tableau, c'était chien. Parce qu'il l'a pas refait avec Pauline Marois. À ma connaissance, ou avec d'autres, dans d'autres campagnes, c'est arrivé que des chefs chiffraient pas encore leurs promesses. Puis il me semble que le tableau, ils l'ont pas ressorti. Mais bon. Cependant, mais ça, je l'ai aussi dit, ça. Il a raison que Mario a mal paru. Mario aurait dû se lever puis écrire trois chiffres. Regardez. Puis mettons qu'il en manque un, garde. Ou juste écrire, mettons que les autres, c'est tous des gros montants, là. Tu fais un stun, tu fais juste écrire, regardez, moi, là, ça va être moins que ça. Je vais le dévoiler mercredi, mais c'est moins, moins et moins. Tu fais juste écrire avec la craie trois moins. Parce que moi, je vais être respectueux des contribuables. Tu t'en vas t'asseoir, puis... Ou tu donnes un chiffre ici et là. Mmh.
C'est, faut que tu sois préparé à ça.
Il a gelé. Oui,
c'est ça.
C'est vrai que Mario a gelé.
Vous posez peut-être la question, est-ce que Guy Lepage a déjà été approché en politique? Alors, j'ai posé ces questions-là, mais vous allez voir que la conversation a glissé sur le terrain de l'implication politique des artistes, et c'est très intéressant ce qu'il va raconter.
Jamais. Mais non, je mène trop l'eau jusqu'à la Écoute, j'ai même déjà refusé d'aller présenter un premier ministre le soir de sa victoire. C'est une autre affaire, puis je rentrerai pas dans les détails. Mais par principe, quand un artiste s'identifie à un politicien, quand le politicien fait de la marde, c'est les artistes qui écopent. Moi, j'ai été un des membres fondateurs des Artistes pour la souveraineté avec Paul Pichet, Audrey Benoît puis Louise Richaud. Ça a fait des vagues, là, en plus, en 1995, juste avant le référendum, puis c'était pas un parti. Diane Jules, qui était rentrée dans notre groupe, avait dit quelque chose, une niaiserie, puis elle s'est retrouvée dans les journaux, tout le kit. C'était erreur de jugement, disons. Et là, le Parti québécois l'avait vilipendé. Lucien Bouchard avait dit une affaire odieuse sur les artistes. Genre, ben oui, eux autres, on sait bien. Moi, j'ai dit, voilà exactement ce que je pensais. Nous autres, on vous attire du public, mais on est jetable après usage. Puis si on a trop manifesté notre partisanerie, ben il y a des gens qui nous encourageront plus parce qu'on vote pas comme eux. Ça, je l'ai jamais appliqué parce que j'ai jamais caché quelles étaient mes allégeances. Ça n'a jamais été des allégeances de parti. C'était des idées nationalistes versus fédéralistes.
Il y a un couteau à double tranchant. Mm-hmm. Effectivement, pour les artistes qui militent, on l'a vu avec le dernier show de Paul Pichet au Centre Vidéotron, selon moi. Mm-hmm. S'il n'y avait pas eu autant d'idées, tu sais, Paul Pichet, militant, écologiste, souverainiste. Il a fait beaucoup, beaucoup de politique, Paul. Il a donné un show au Centre Vidéotron, je ne sais pas si vous en souvenez, il n'y avait pas beaucoup de monde.
Non, ça n'avait pas été très populaire.
C'est peut-être pas juste à cause de ça. Moi, je pense que ça peut éloigner des artistes de leur public.
Mais est-ce que Guy Lepage aurait été intéressé à se présenter en politique?
Non, zéro. Même pas un peu. J'ai pas envie que tu déterres mon passé et que tu me rappelles des affaires avec qui j'ai fourré. Non, mais gars, moi, là, j'ai 59 ans. Tous les gens qui ont mon âge, ou à peu près, ont souvent changé d'idée, ou pas nécessairement d'allégeance, mais changé d'idée, modifié leur comportement et leur opinion. Et on refuse qu'un politicien change d'idée. Moi, là, si t'étais, je vais te donner un exemple, si t'as toujours été contre l'avortement, mettons, il y a 25 ans ou il y a 20 ans, que tu l'as dit en public, puis qu'au fil de tes rencontres, puis de ton évolution de pensée, puis les gens que tu côtoies, t'es à tout le moins décidé que les femmes avaient le droit de disposer de leur corps. Chez une personne normale, on dirait, bon, ben bravo, beau cheminement. Un politicien, on va dire, oui, mais en 2003,
c'est un peu vrai, par exemple.
Ah, ça, ben, on l'a dénoncé cette semaine. Mm-hmm. Oui.
Ensuite, j'ai posé à Guy Lepage la même question que j'ai posée à Anne-France Goldwater. Quel est ton rapport avec l'argent? Mais Anne-France Goldwater, vous vous souvenez que c'est une juive, alors on est moins gêné dans la communauté
elle
juive
même,
de parler d'argent.
Elle a même
d'argent.
Dévoilé qu'elle gagnait 750
de
l'heure.
Oui.
Ben, elle gagne. C'est ce qu'elle charge à ses clients.
755 même.
755?
Oui.
Oh, excusez-moi.
C'est ça. Alors, vous allez peut-être être surpris de voir que Guy Lepage, évidemment, il a fait beaucoup d'argent, mais peut-être plus tard que ce que vous pensez.
OK. J'ai commencé à gagner de l'argent à un âge où j'étais habitué de vivre ça. Quand on a fait un BO jusqu'à 35 ans, l'argent est à l'écran. Là. C'est-à-dire, premièrement, pendant les premières années, on gagnait difficilement notre vie. On était 5, ça coûtait cher, RBO. Puis on était 5. Aller voir un show de Michel Barrette ou d'RBO, ça coûtait le même prix. Alors, jusqu'à 35 ans, je me rappelle, quand on arrêtait RBO, je me suis dit, ah, j'ai 6 mois devant moi. Puis là, j'ai fait besoin d'amour et on m'a offert beaucoup plus d'argent que j'avais jamais gagné. Puis un gars, une fille, Fleur Joyeuse, ça marchait. J'ai fini par être très, très bien payé, puis ça s'est vendu à travers le monde. Mais tout ça pour dire que je suis devenu riche 40 ans. Fait que mon rapport est très, très simple avec l'argent. Je suis très privilégié. Moi, je viens vraiment d'une famille de... J'ai hérité du décès de mes parents, d'un piano, d'une lampe, d'une petite chaîne, puis deux cendriers. Hein, c'était ça, moi, mon héritage. Tout ce que j'ai, c'est moi qui le gagne. Sauf que j'ai toujours été un entrepreneur. RBO, on a fondé une compagnie à 20 ans. J'avais 20 ans quand on a fondé Rocky Belles Oreilles Incorporées. Fait que ça fait 39 ans que je suis en affaires.
Alors, 40 ans. Ça fait de l'argent à 40 ans.
Avec RBO, n'a pas été... Hein?
Non, parce qu'il était 5, il expliquait bien.
Oui, mais moi, je pensais qu'avec RBO, ça aurait été pleinement mérité, qu'il était déjà indépendant de fortune quand il a commencé à faire ses shows, puis tout le monde en parle, puis tout.
Mais ça coûtait très cher de produire RBO. C'était des costumes, c'était de l'éclairage, c'était des effets. C'était pas un stand sur la scène avec une petite chaise, un petit tabou.
Bon point.
Ensuite, on va parler d'RBO. La question que j'ai posée, c'est, bon, on sait qu'il y a Lepage a une grande carrière après RBO, puis encore aujourd'hui, ça va super bien. Les autres ont une carrière moins flamboyante. Sans dire qu'ils n'ont pas eu de carrière, mais c'est moins flamboyant que Guy Lepage, on s'entend. Je me demandais, est-ce qu'on se sent mal par rapport à nos amis quand on connaît un plus grand succès qu'eux aujourd'hui, alors qu'on est toutes parties de la même place?
Bien, premièrement, tout le monde vit de son travail. Tout le monde. À partir du moment où tu dis que notre petit projet universitaire qui devait être un stage de radio, qui était un stage de radio pour Richard Sirois et moi, est devenu non seulement un travail à temps plein pendant 15 ans, mais en plus, c'est ça qui nous a permis d'avoir tout le reste qui a suivi. On peut juste être reconnaissant les uns envers les autres. Moi, avant d'être l'animateur de Tout le monde en parle, avant d'être le gars d'un gars de fille, j'étais un RBO. Puis si RBO n'avait pas existé, on ne serait pas ici en train de faire une entrevue. L'autre jour, Bruno a sorti un livre, puis Bruno nous avait demandé d'écrire une préface à André, Yves et moi, séparément. Asti, on a tout écrit à la même affaire.
C'est vrai?
Oui. Ça disait tout qu'un groupe est plus fort que les individus qui les composent, qu'on a tous besoin des uns des autres. On est tous amis pour la vie et reconnaissants pour la vie de s'être rencontrés et d'avoir pu faire ce bout de chemin-là ensemble. Nous, il n'y a aucune chicane, je pense, qui a traversé la nuit. Des fois, tu parles des petits conflits, mais rien qui mérite plus qu'on va aller prendre une bière et on va s'en parler.
C'est bien correct, sa réponse, dans le contexte, là, est bien correct, mais il reste que ça doit être tough pareil parce que tant que le band est ensemble, pour moi, RBO, c'était un band, c'était bon RBO. Quand ils sont séparés, on s'est aperçu que c'est sûr que c'est pas égal. Le talent est pas égal. Tu le vois que les carrières, ça veut pas dire qu'ils ont pas bien performé dans RBO. Mais mettons qu'il a parlé de Bruno. C'est ça. On le voit moins un petit peu, Bruno, là. Le chef, il s'appelait le chef Groslot. À un moment donné, moi, je l'ai vu en spectacle à La Rouche, là. La Rouche, c'est pas gros. Juste vous dire, le petit bar, c'est bien correct, là. Mais il y avait un show à La Rouche, un bar, c'était Bruno. Pendant ce temps-là, Guillaume, il faisait un gars, une fille, là.
Ouais.
André G. Ducharme, ça a bien été. Richard Z. Sirois, ça a été plus difficile un peu ces dernières années. Yves Pépelletier, oui, il a donné un autre show encore. Mais il n'y a pas un qui a le même parcours après, là.
C'est ça, ça doit être un peu difficile quand même. Il fallait vraiment qu'on parle de Bob Bissonnette. Parce que dans le documentaire sur Bob Bissonnette, on apprend que Bob avait été très peiné dans sa vie, dans sa carrière, de jamais avoir été invité à Tout le monde en parle. Alors, je demandais à Guillaume
Lepage. À un point que dans son char, il parlait à Guillaume Lepage. Comme s'il était en entrevue sur le plateau.
Alors, je demandais à Guillaume Lepage, premièrement, est-ce qu'il avait entendu parler du documentaire? Et deuxièmement, est-ce qu'il était au courant que Bob voulait à ce point aller à Tout le monde en parle?
Ben oui, puis je l'ai pas vu, puis je connais. Il y a plein de monde qui m'ont parlé de Bob, mais qui viennent tous de Québec. Parce qu'il était très, très, très peu connu à Montréal. Non, la réponse est non. On savait qu'il faisait des chansons rigolotes, passait souvent à la radio. Il aurait vraiment fallu que j'aie 4 amis à Québec qui me filent les tunes en me disant « Hey, as-tu vu? » Deuxièmement, tu sais, l'émission s'appelle « Tout le monde en parle ». Ça arrive des fois qu'on a des coups de cœur, ça arrive des fois qu'on présente des gens dont c'est pas tout le monde qui en parle. Mais en général, une semaine normale, on n'est pas obligé d'aller piger dans nos coups de cœur obscurs, tu sais. La liste des invités, c'est une belle liste évidente avec plein de monde qui ont fait l'actualité nationale et internationale. Fait que je dirais que le nombre d'occasions à Tout le monde en parle, on a présenté des gens qui étaient probablement pas vraiment plus connus que Bob Bissonnette. Mais ça doit arriver une fois sur 100 à peu près.
Bon, là, je suis pas d'accord avec lui, là. Ça s'appelle Tout le monde en parle, mais Claude Pelgag, c'est pas tout le monde qui en parle. Mais elle est bonne à son public, puis c'est correct, là. Je crache pas là-dessus, pantoute. Ben des artistes, des fois, je m'excuse, Guillaume, ça se limite à Montréal, là. Ou des fois, même Plateau Mont-Royal, sans tomber dans le fameux cliché, mais vraiment. Il les invite pareil, c'est son show, c'est parfait. Bob Bissonnette, OK, Montréal, moins connu, mais à la grandeur du Québec, de l'Abitibi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis Radio-Canada, là, le mandat, là, c'est supposé être Coast to Coast Canada.
Mais il savait pas que Bob voulait y aller. Fait que je sais pas de quelle façon Bob Bissonnette avait contacté l'émission, mais il a dit carrément non. La réponse, c'est non. J'étais pas au courant.
Non, mais il y a toujours bien quelqu'un, donc, qui l'a refusé. Donc, je ne blâme pas Guillaume personnellement, mais il y a quelqu'un dans son équipe qui a dit Bob Bissonnette, ça nous intéresse pas.
Mais pourtant, tout passe par lui. C'est ça qui est spécial. Il a vraiment un pouvoir décisionnel sur. Il dit, c'est lui qui dit non ou oui avec son équipe à certains invités. Fait que je sais pas comment ça s'était passé dans le passé à cette époque-là.
Mais au-delà de Bob qui veut y aller, Bob avait quand même créé un phénomène. Ça, ça devient intéressant, tout le monde en parle.
Ouais, mais tu vois, ça s'est pas rendu à Montréal. C'est
ça
aussi. Ça
m'aurait pris quatre amis à Québec qui me parlent de lui. Voyons.
Mais ça veut dire que ça s'est pas
rendu. Flush toutes les recherchistes autour de toi de bord.
Ben, visiblement, ça a pas l'air de s'être rendu, là, vraiment.
Ouais. Mais tu vois qu'il y a deux mondes.
Ouais.
Mais ça nous amène, on a longtemps parlé des deux solitudes, Québec, Canada, anglais. Au Québec aussi, il y a deux solitudes, là. Les régions puis Montréal, pas pareil.
Bon, un petit spécial quand même. L'invité qui l'a le plus marqué, c'est qui?
Oui.
J'appelle Gaston. Oui, ça, c'est une telle violence qui est arrivée. Je suis pas un haineux dans la vie. Je n'haïs pas de monde. J'aime pas assez de temps, j'ai pas assez de mémoire pour entretenir une haine envers quelconque. Mais j'haïs Guy Turcotte. Je l'haïs. Il m'a rien fait, je l'haïs. À chaque fois que je vois qu'il essaye d'améliorer son sort, j'espère juste que ça y arrivera pas. Puis je me réjouis de ses insuccès. C'est un hostie de trou de cul. C'est un salaud. C'est un dégueulasse.
Je me souviens de l'entrevue avec Isabelle Gaston. Ah, tout le monde en parle.
Ouais.
Et ce qui est fascinant, pour y avoir déjà parlé aussi, devant l'horreur, la tristesse, la tragédie, tout ce qu'elle a vécu, là, il a raison, mais c'est sa force de caractère qui nous surprend. Elle pourrait arriver là, complètement abattue, broyée, pleurer, ça serait tout à fait normal. Mais la voir forte dans ces circonstances-là, il y a quelque chose là-dedans qui vient nous chercher aussi.
Oui, quand tu reçois une victime, en général, ça doit être assez touchant. Mais Isabelle Gaston, c'est vrai que la femme était touchante avant son drame, tu sais.
Ouais, ouais.
Ensuite, dans la catégorie invité bizarre. En 16 ans, oui. Tout le monde en parle, il y en a eu des coucous, là. Moi, je me souvenais de Raël à l'époque, là. Et j'ai demandé l'entrevue qui a été la plus bizarre pour Guy Lepage.
Non, le gars des UFO, là, le gars, là, qui était arrivé, là, qui parlait des extraterrestres, qui avait fait une espèce de pantin. Il montrait à quoi ça pouvait ressembler selon lui. Il avait amené ça, puis ça avait l'air d'un épouvantail dans un champ. Puis qu'il avait dit, on avait dit, oui, mais si un extraterrestre cogne à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, prends pas de chance, tire-les. OK, tu as été intéressé au cosmos et à la vie extraterrestre, mais prends pas de chance. S'il cogne à ta porte, en plus, parce qu'on s'entend qu'il pourrait juste détruire ta maison. Il cogne à ta porte, t'ouvres la porte, c'est un extraterrestre, tire-les. Fait que ça m'avait un petit peu déconcentré.
Je m'en souvenais pas, par exemple, de celui-là. Ça devait être il y a plusieurs années, quand j'étais plus jeune. Bon, finalement, dernière question. Guy Lepage avait déjà affirmé qu'il y avait plus de choses en commun avec les gens de San Francisco, de Barcelone ou de New York qu'avec des gens des régions au Québec.
Citation que je me suis amusé, je l'avoue, à citer dans quelques dossiers, notamment Bob Bissonnette. Quand arrive des controverses de même, je rappelais ça aux gens. Comment ça se fait que Guy a déjà dit ça?
C'est ça.
Ça, c'est un reproche. Je trouve que il devrait avoir plus. Je sais pas, sûrement qu'il se promène un peu partout dans les régions du Québec, mais il devrait y avoir plus de sensibilité avec ça.
Ben, il a fait la tournée des régions pour RBO, entre autres.
Oui,
il s'est promené partout.
Ben oui.
Et donc, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas aimé ça. C'était ma question qui tue à Guy Lepage. Alors, on est revenu sur cette déclaration-là.
Moi, je viens d'une grande ville, Montréal, que je considère encore petite par rapport à Londres, par rapport à New York, par rapport à des grandes Rome. Quand tu habites une métropole, moi, j'aime beaucoup Toronto. J'adore ça. Tu as des réflexes de quelqu'un qui habite dans la grande ville. Moi, je connais pas mes voisins, par exemple. Bien, je vais donner un exemple de Québec, OK? C'est super drôle. Je m'envoie un jour chez Simons. La dame, elle me dit, bonjour, M. Lepage. Qu'est-ce que vous faites à Québec? C'est ici pour le plaisir ou pour les affaires? Ça, premièrement, à Montréal, personne ne me demande ça. Fait que là, je suis un peu surpris. Je dis, non, je suis avec ma blonde. Je ne suis pas trop. Là, après ça, elle me dit, avez-vous aimé ça hier au restaurant? C'était mon beau-frère qui vous a servi. C'est bon, hein, les petites asperges. C'est deux personnes différentes en même journée. Fait que là, je dis, hey, tabarouette, il y a quand même 400 000 personnes ici, l'information circule. Moi, ça fait 30 ans que j'habite sur la rue Saint-Hubert. Je connais quatre voisins. Fait que moi, de voir toute cette information-là qui circulait à cette vitesse-là, ça me faisait capoter. C'est super beau, Québec, là. J'y suis allé des dizaines de fois. C'est pas ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, là. Moi, j'en ai fait des shows à Québec, au Palais Montcalm, puis tu sors le mardi, puis le temps que tu aies pris ta douche, les trottoirs sont roulés, puis tu t'en vas dans un bar, puis il y a 4 personnes. À Montréal, même pendant la paix et tempête, les restaurants sont pleins, puis si tu décides de faire des affaires bien wide le lundi soir, tu vas trouver. Fait que moi, c'est cette effervescence-là que j'aime. Fait que c'est ça que je recherche quand je vais à Chicago, quand je vais à New York, quand je vais à Mexico. Mais moi, c'est un jour où je déménage de Montréal. Ça va vraiment être pour rester à Londres, là. Pour que je dise, hey, c'est petit un maudit Montréal. Fait que c'est ça la raison. Puis là, tout le monde avait pogné les nerfs là-dedans. Je vais dire, mais non, c'est tout à fait normal. Les gens n'écoutent pas les réponses. Ils les entendent, mais ils les écoutent pas. Très souvent, là, les gens, quand t'aimes pas quelqu'un, tu présumes de sa mauvaise foi, t'écoutes pas ce qu'il a dit. Hey, il veut pas venir à Québec. C'est pour ça que j'ai j'ai dit. Mais si c'est ça que t'as compris, ben tant pis pour toi. Ça change rien dans ma vie, moi.
Je comprends. Il a le droit d'aimer mieux Montréal et métropole. Mais Guillaume, c'est la seule affaire que j'aimerais lui dire. OK, c'est une machine à imprimer de l'argent, tout le monde en parle, mais c'est un privilège qu'il y a, là. Et il n'y a pas d'équivalent. Il le reconnaît lui-même, il a de l'influence, il a du pouvoir. Même si lui, il aime mieux les métropoles que les petites villes, c'est correct, ça. C'est une question de goût puis de choix. Il reste qu'il devrait avoir ses antennes. Il devrait être plus ouvert à ce qui se passe dans les régions puis ailleurs que sur l'île de Montréal parce qu'il est à Radio-Canada. Et oui, c'est une machine à faire du fric, mais ce fric-là, il vient pas juste de Montréal, Guilla. Il vient de tous ceux qui te regardent, et il y en a beaucoup. Et ils sont des fois en Abitibi, au Saguenay ou ici à Québec, dans des villes où t'aimerais pas vivre, ou un peu moins peut-être. Nice, c'est correct. Ton choix est là d'individu. Mais si t'es capable de voir un peu en haut, là, peut-être que t'aurais connu Bob Bissonnette. Si t'avais, peut-être pas personnellement, mais du monde autour de toi. Tu devrais t'entourer d'une couple de personnes de région, je pense. Ou d'ailleurs. Parce que, faites le pourcentage des invités à Tout le monde en parle, c'est beaucoup, beaucoup Montréalais. Là-dessus, je pense qu'il y aurait avantage à faire ça. Puis, il y a le temps, parce que s'il a raison, c'est vrai que son show va bien. Il va bien depuis 16 ans. Et il s'essouffle pas. Donc, on est peut-être pogné, entre guillemets, pour avoir encore 10 ans de Tout le monde en parle. Ça serait, je pense, intéressant qu'il y ait plus d'ouverture.
En tout cas, cette semaine-là, il a donné 1h30 à une radio de Québec, puis il a dit non à un gala de Montréal. Fait que c'est quand même pas pire.
On a gagné.